L'affaire Sophie Le Tan, la mort en Alsace. Le second témoignage est celui d'une autre jeune femme, âgée de 25 ans. Fin août 2018, une semaine avant la disparition de Sophie, elle tombe sur la même annonce que l'étudiante en psychologie. Elle s'intéresse au bien, veut obtenir plus de précisions sur ce dernier à l'occasion d'un échange téléphonique. Pierre choisit de ne répondre à aucune de ses questions et lui propose un rendez-vous pour qu'elle se rende compte par elle-même. Bizarrement, il lui donne rendez-vous dans une rue prétendument à côté de l'appartement pour lui proposer ensuite de se rendre avec elle au logement. Éprise d'un doute, elle fait part de cette proposition à son compagnon. Ce dernier décide de l'accompagner. Le couple attend pendant 45 minutes sans aucun retour du propriétaire. La jeune femme finit par rentrer chez elle, sans se douter qu'elle aurait pu être la victime d'un traquenard et peut-être subir le même sort que Sophie, si son compagnon n'avait pas été présent ce jour-là avec elle. Les deux jeunes femmes donnent tous les numéros utilisés par ce Pierre aux enquêteurs. Ils pensent que ceux-ci ont été créés sous de fausses identités chez Lika Mobile, un opérateur mobile virtuel depuis lequel on peut générer des numéros de téléphone sans aucun justificatif. Les données sont confiées à des experts en téléphonie, capables de localiser les appels émis entre août et début septembre. Au total, Pierre, qui est un faux nom, a utilisé 8 numéros différents. Tous bornent dans la même zone de Schiltigheim. Tout comme une ligne, non anonyme, enregistrée chez SFR. En moins de 5 jours, les enquêteurs de la police judiciaire de Strasbourg ont leur principal suspect. Il s'appelle Jean-Marc Reiser. La photo Snapchat que Sophie a envoyée à sa sœur permet de confirmer son adresse. 1 rue Perle, à Schiltigheim. Autrement dit, la jeune étudiante avait directement rendez-vous chez lui. À la lecture du rapport d'enquête, le procureur autorise son arrestation. Sa voiture est repérée sur le parking d'un supermarché au champ. Les policiers veulent attendre que celui-ci la rejoigne pour l'arrêter. Il est 22h35. Dans sa voiture, ce ne sont pas les preuves qui manquent pour l'accabler. Les policiers découvrent une bâche, un masque de sommeil, une paire de jumelles, un couteau, un sac à dos noir avec des antidouleurs, mais aussi plusieurs clés USB, des chèques vacances ou des montres. Autant de biens qui ont été dérobés. Son appartement est perquisitionné. Les policiers sont surpris de découvrir un logement parfaitement nettoyé. Toutes les pièces sentent la javel. Sur le bureau du propriétaire, il découvre une étrange liste faisant référence à des pays sans convention d'extradition avec la France. Et sur le rebord de la fenêtre, une paire de jumelles. On aurait pu attribuer cela à une simple curiosité, si les enquêteurs n'avaient pas trouvé une constellation de taches de sang avec le Blue Star dans la salle de bain. Le Blue Star, c'est le révélateur et le détecteur de sang le plus efficace pour utilisation sur scène de crime. Les polices criminelles du monde entier l'utilisent pour enquêter. Au domicile de Jean-Marc Reiser, absolument tous les éléments de la salle de bain sont constellés de ces points bleus, reconnaissables par des experts. Quelqu'un a été assassiné dans cette pièce. Jean-Marc Reiser est aussitôt placé en garde à vue. C'est l'avocat Pierre Giuriato qui est chargé de le représenter et de le défendre. À l'issue des premières 24 heures, le suspect ne fait aucun aveu. La commissaire en charge de l'enquête, Sarah Jamais, lui a présenté une photo de la victime. Il dit qu'il ne l'a jamais vue personnellement. En revanche, il est bien au fait de la vie de recherche. En ce qui concerne le bornage des téléphones, dont celui de Sophie Le Tan, en bas de son domicile, il affirme qu'il s'agit d'un hasard. La commissaire n'est pas dupe. Ces taches de sang sont la preuve presque irréfutable de la culpabilité du suspect. Il ne manque plus qu'une seule analyse génétique pour la confirmer. De plus, Reiser n'a aucun alibi. À la question « Que faisiez-vous ce vendredi 7 septembre 2018 ?», il répond simplement « J'étais dans le coin ». Au deuxième jour de sa garde à vue, Jean-Marc a une attitude plus provocatrice. Il s'emballe vite, adopte des airs condescendants. Il demande à l'enquêtrice principale si elle le croit assez stupide pour donner rendez-vous à des jeunes filles en bas de son appartement, alors que tout le monde le connaît. Bien que l'issue de la garde à vue ne se solde sur aucun aveu et que l'analyse ADN n'a pas encore été faite sur les traces de sang retrouvées dans son appartement, il est mis en examen. Il est placé en détention provisoire à la prison d'Elzao, à Strasbourg. Son lourd passé n'a pas joué en sa faveur. Jean-Marc Reiser est originaire de Ingwiller, dans le pays de Bitsch. Un village alsacien comme un autre, entouré de champs et de forêts. Hubert Reiser, son père, est garde forestier. Il habite une maison en retrait du village. Jean-Marc se sent un peu isolé du reste du monde. Il est seul face à un père alcoolique et à une mère soumise à sa volonté. Le garde forestier est un ancien marin qui regrette de ne plus pouvoir reprendre la mer depuis la naissance de son fils. Hubert attribue à Jean-Marc ses mauvais choix de vie. Le jeune garçon trouve refuge chez son grand-père maternel. Ses difficultés familiales se ressentent sur sa scolarité. Il redouble de classe, s'attire la foudre de ses professeurs. Au collège, il se fait vite oublier. Il ne lui reste que la violence pour pouvoir s'affirmer. Une violence dont il fera preuve au sein du foyer familial. Un jour, alors qu'il a 14 ans, il menace son père avec une hache après avoir assisté à une nouvelle dispute. Interné un temps dans une unité psychiatrique, il est placé dans un établissement spécialisé de Strasbourg, le château d'Angleterre. Ce qui devait être un refuge ne va qu'alimenter un peu plus son mal-être. À 18 ans, il décroche un BEP, travaille un temps pour la poste avant de faire son service militaire. Après l'armée, il devient facteur, ce qui lui permet de s'installer dans un meublé à Strasbourg. Ses collègues témoignent de son comportement dérangeant. Jean-Marc n'a jamais eu de respect envers les femmes. Pour essayer d'impressionner la gente féminine, il se fait passer pour un étudiant en médecine. Pour paraître plus crédible, il demande à son cousin, qui lui est réellement inscrit en médecine, des détails sur ses cours. Il le sollicite également pour obtenir des médicaments et insiste pour assister à des séances d'autopsie. Au cours de sa carrière de facteur, il fait la connaissance d'une femme, une collègue de travail, prénommée Isabelle. Pendant quelque temps, elle va être son souffre-douleur. Jean-Marc copie les attitudes de son père. Il se montre violent avec elle. Un jour, lors d'une dispute, il la menace avec un couteau. Un autre jour encore, il lui jette un verre au visage parce qu'elle refuse de coucher avec lui. Isabelle, se sentant de plus en plus menacée, le quitte en s'enfuyant en douce. Par chance, elle ne travaille pas dans le même service que Jean-Marc. Malheureusement, l'homme, qui connaît très bien sa tournée, l'intercepte sur le chemin. Il la menace avec un revolver avant de prendre la fuite. À l'époque, Isabelle est trop terrorisée pour confier son histoire. Elle sera plus à l'aise pour en parler, le jour où Jean-Marc sera confronté pour la première fois à la justice. Plus tard, Jean-Marc fait la connaissance d'une étudiante. Ironie du sort, elle aussi s'appelle Isabelle. Elle emménage avec lui, un peu trop rapidement. Prise dans une idylle, elle ne remarque pas qu'elle est tombée entre les griffes d'un monstre. Jean-Marc adopte le même comportement violent. Mais cette fois, c'est encore pire. La jeune femme se voit mourir, un jour, alors que Jean-Marc la traîne dans une forêt, près d'une rivière. Pendant 2 heures, elle se fait torturer avant d'être de nouveau ramenée dans l'appartement. Elle tente de s'échapper par la fenêtre avant d'être rattrapée puis séquestrée dans la chambre. Jean-Marc fait changer toutes les serrures des portes. Elle finira par être délivrée par son frère. Reiser la retrouve plus tard, sur le quai de la gare de Strasbourg. Isabelle s'apprête à quitter l'Alsace pour s'installer à Brest et y poursuivre ses études. Devant témoins, elle se fait gifler et insulter. Jean-Marc Reiser se lance ensuite à sa poursuite. Il prend également un train pour Brest, trouve son nouveau logement étudiant. Isabelle menace de porter plainte. C'est assez pour que Jean-Marc s'éloigne. Pendant un temps, il continue à lui envoyer des lettres auxquelles la jeune femme ne répondra pas. Finalement, elle n'aura plus jamais de nouvelles de son ancien tortionnaire. Ce dernier a déjà trouvé sa nouvelle victime. Du moins, on le suppose. Il ne sera jamais condamné pour la disparition de Françoise Aumann, 23 ans. Il réfute toute accusation. Aujourd'hui, la justice doute encore. Le 8 septembre 1987, Françoise Aumann, représentante en aspirateur, disparaît en pleine tournée commerciale. Elle venait de frapper à la porte de Jean-Marc Reiser dans le quartier de Haute-Pierre. Mais à l'époque, il n'y a aucune preuve scientifique permettant de prouver que Jean-Marc était responsable. Le dossier Aumann est régulièrement étudié, mais toujours non élucidé.